Être anglais juste un matin, ce matin, tiens, se lever et décider qu'en lieu et place d'un café, on prendra une tasse de thé. Non pas pour faire son intéressant, mais pour résister, parce que c'est là tout l'enjeu, je crois, du fameux thé anglais, dont l'eau siffle dans la vieille bouilloire avant qu'on y trempe en silence ce drôle de petit sachet. La tasse en porcelaine, vous vous en serez douté, à quelque chose de vieillot, dans des tons de rose ou de bleu passé. Peut-être que vous connaissez ce fameux essai où George Orwell détaille ses règles d'or pour que le thé ne soit pas gâché. Un texte qui explique par exemple qu'il faut verser l'eau avant le lait, sans quoi on risque de tout planter. Et chaque fois que je tombe dessus, je mesure à quel point cette boisson a quelque chose d'étrangement subversif pour un Anglais. Le Titanic peut couler, le monde entier peut s'écrouler, on ne plaisante pas avec une tasse de thé. Je pense à la petite Alice qui boit littéralement la tasse devant la folie d'un chapelier. Je pense au narrateur des Odes Hurlevents d'Emily Brontë qui est invité pour le thé, mais qui se fait mordre méchamment. Je pense au livre de mon invité aussi qui est en train justement de siroter une tasse de thé à l'heure où l'idée d'Europe est en train de sombrer dans sa façon de remuer sa cuillère, vous savez, un peu trop doucement. Il a quelque chose d'irrésistiblement anglais. Il est en train de résister.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Il se trouve que mon invité d'aujourd'hui est anglais. Son nouveau roman, La seule histoire, vient de paraître en France dans une très belle traduction de Jean-Pierre Austin à travers le récit d'un premier amour entre un jeune homme et une femme de 30 ans, son aîné. Il nous dit aussi en creux quelque chose de la Grande-Bretagne. Bonjour Julian Barnes.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Merci de me recevoir. Être anglais, qu'est-ce que ça veut dire pour vous particulièrement aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça veut dire qu'on est dans un état d'être abandonné par l'Europe, même si c'était notre choix, ou le choix de 52% de la population britannique. Et donc, beaucoup d'Anglais sont dans un état d'appréhension et de tristesse, et même de panique.
Qu'est-ce qui vous fait peur dans la Grande-Bretagne de demain ?
Ce qui me fait peur, c'est qu'on va quitter l'influence historique de l'Europe et j'ai peur qu'on tombera dans les bras des États-Unis. Et ce sont des États-Unis actuellement qui sont presque fous.
C'est-à-dire autant le repli sur soi que le triomphe de certaines valeurs capitalistes en réalité.
Le capitalisme américain actuellement, c'est une forme de vol et de violence pour moi. Pour moi, le capitalisme doit toujours être contrôlé, un peu dirigé par l'État. Autrement, c'est comme une vie tout à fait sauvage.
Vous êtes un europhile convaincu, Julian Barnes, et depuis longtemps, comment est-ce qu'il est né, chez vous, ce désir d'Europe ?
Alors, mes parents, mon père et ma mère également, ont enseigné le français dans des lycées toute leur vie. Et le premier pays étranger que j'ai connu, c'était la France, à l'âge de 13 ans. Et entre l'âge de 13 ans et 17 ans, c'était le seul pays étranger que j'ai connu. Donc c'était pour moi mon premier exotique.
Ce qui est intéressant.
Oui, et à cette époque, on parle des années 50, début des années 60. La France était vraiment exotique pour moi. Tout était différent. On prenait des voyages en auto dans les régions typiquement françaises, du point de vue d'un anglais, les châteaux de la Loire, la Dordogne, etc., etc. Et on voyait rarement une autre voiture anglaise.
Mais les relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe ont toujours été compliquées. Comment est-ce que vous l'expliquez-vous, cette méfiance britannique de toujours ?
Oh, je pense que Si le bon Dieu existe, ce qu'il a fait, c'est de mettre côte à côte deux nations qui sont désignées, qui sont préparées pour s'irriter.
Remarquez que je ne vous ai pas encore appelé perfide, Julian.
Non. Mais on voit les mêmes vices qu'on a soi-même dans l'autre pays. Et en tout cas, c'est un pays catholique contre un pays protestant, un pays du Sud contre un pays du Nord, un pays qui a tous les deux tué nos rois à une certaine époque, mais vous avez resté républicain plus longtemps que nous. Donc, et vous êtes une race intellectuelle, nous sommes une pragmatique. Il y a tant de différences, et ce sont exactement les différences qui nous font mutuellement se méfier de nous-mêmes, l'un de l'autre.
La seule histoire, votre nouveau roman, Julian Barnes, est émaillé de petites réflexions sur certains traits de caractère que vous jugez comme typiquement anglais. Vous écrivez, par exemple, que régnait, à un moment donné, un silence anglais. Un de ces silences, dites-vous, où tous les non-dits sont parfaitement compris de part et d'autre. Pourquoi le silence anglais ne ressemble à aucun autre, à votre avis ?
Alors, je ne connais pas tous les autres pays, mais je pense que normalement, en France, quand une mère et son fils se disputent, ils se disputent par des mots. En Angleterre, c'est souvent par des silences. Mais tous les deux comprennent ce que ce silence veut dire.
Mais alors, un silence français, ce serait quoi, vous qui connaissez bien la France ?
C'est rare, le silence français. C'est très rare.
C'est intéressant parce que vous parlez aussi de l'impossibilité pour un Anglais de se mettre en colère. Vous écrivez « Pour toute chose sérieuse, nous faisons ce qui était prescrit aux classes moyennes de notre génération. Nous intériorisions notre rage, notre colère, notre mépris. Nous ravalions nos paroles. » Ça veut dire que tout est une affaire de classe sociale ?
Je parlais des années 60, des années 50, 60, 70. Et à cette époque, les Anglais étaient plus anglais que nous le sommes maintenant d'un point de vue des émotions et de l'expression des émotions. Et je pense qu'une des choses qui s'est passée, c'est que la vie émotionnelle, la vie sentimentale, dans son expression, est devenue un peu émotion à la télévision. Quoi. On voit à la télé américaine, par exemple, que les participants à une émission sont encouragés de montrer au plus fort leurs émotions. Et cela a influencé la télévision anglaise et donc également la population anglaise. Non seulement ils montrent les émotions, mais ils les exagèrent.
Vous vous y retrouvez, vous, Julian Barnes, là-dedans, dans cette expression d'émotion?
Non, pour moi, c'est quelque chose de gothique. c'est pas réaliste, c'est gothique.
Ravaler ces paroles, ça arrive même aux écrivains?
Oui. Par exemple, j'ai écrit 14 romans à peu près, et ils deviennent de plus en plus courts. Donc peut-être j'avale mes mots en vieillissant.
Ça veut dire que ce serait aller vers ce trait de caractère typiquement anglais, qui est celui de ravaler ses paroles?
Je sais que je vais rester anglais, et d'un œil français, très anglais jusqu'à ma mort. À un certain moment, il y a 20 ans peut-être, quand mes livres ont commencé à réussir en France, je me suis persuadé que j'étais un peu continental, comme on dit en Angleterre, un peu français peut-être. Mais quand je disais à un Français que je suis peut-être un peu français, non. Vous nous plaisez parce que vous êtes typiquement anglais.
Dans quelle mesure est-ce que écrire, c'est un acte de transgression pour vous ?
Non, c'est un acte de liberté. Vraiment, je suis le plus moi-même quand je suis dans mon bureau, à ma machine à taper. Je me sens le plus bien dans ma peau à la machine à taper.
Parce que c'est bien une histoire de transgression que vous nous racontez dans la seule histoire, celle d'un amour entre un adolescent et une femme mariée de 30 ans, son aînée. Pourquoi est-ce que cette relation choque-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle a de scandaleux pour l'époque, pour le milieu ?
Oh, c'était scandaleux en Angleterre à cette époque. Et il y a toujours... Je pense que ça reste un peu choquant. Un homme de 50 ans avec une fille de 20 ans, ça ne choque pas. Ça nous semble normal, c'est exercice de pouvoir et tout ça, et d'argent. Mais si on propose le contraire, c'est choquant, parce que d'abord, on pense qu'à un certain âge, une femme perd ses désirs sexuels. Il y a actuellement, dans les journaux anglais, il y a un cas d'une institutrice qui a peut-être séduit un garçon de 15 ans.
Qu'est-ce qui vous scandalise ? Vous.
La cruauté, le manque de sympathie, la froideur, l'exercice de pouvoir qui n'est pas dans l'intérêt général.
Vous pensez à quoi ? Vous pensez à qui ?
Je pense aux États-Unis, je pense à l'Angleterre. Je crains que l'idée de coopération internationale est sous une attaque assez forte à ce moment-ci. On sait que le président des États-Unis veut détruire l'Union européenne. Oui, c'est clair, il l'a dit.
Celle qui nous scandalise tous les jours dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité subversive et perverse. Que se passe-t-il donc aujourd'hui ?
On va essayer de travailler, de dialoguer avec l'architecture, et de trouver des configurations qui sont assez originales, que j'ai compris qu'elles n'ont jamais été faites dans cette salle.
Gitaï électrique, Amos Gitaï, est ce soir à l'honneur de la Philharmonie de Paris. Le cinéaste israélien y présente Yitzhak Rabin, chronique d'un assassinat, spectacle musical créé au Festival d'Avignon en 2016 avec de nouveaux musiciens, notamment la soprane Barbara Hendricks. Le fervent militant pour la paix entre Israël et la Palestine met en scène l'échec des accords d'Oslo et l'assassinat en 95 de Rabin, premier ministre israélien et prix Nobel de la paix. Quel plaisir que de détruire pour recommencer. C'est avec cette phrase empruntée à Picasso que le street artiste Banksy a commenté sur Instagram l'autodestruction partielle et préméditée de l'une de ses œuvres vendue aux enchères chez Sotheby's ce samedi. Peut-être rappelait-il ainsi le caractère éphémère d'une œuvre de rue vouée par essence à être recouverte, endommagée ou nettoyée. Pour ce qui est du prix, en tout cas, il a doublé. Retenu prisonnier en Russie depuis 2014, Oleg Sentsov a mis fin à la grève de la faim qu'il avait entamée en mai dernier pour protester contre sa condamnation à 20 ans de prison par un tribunal de Moscou. Loin d'avoir obtenu satisfaction, le cinéaste ukrainien s'est remis à manger pour éviter d'être nourri de force par ses geôliers. Après 145 jours de lutte, 20 kilos en moins et un corps brisé, l'objectif n'est pas atteint, a-t-il fait savoir dans une lettre manuscrite. Le combat continue. Adios, señora Cavalle. C'est aujourd'hui à Barcelone qu'auront lieu les obsèques de la cantatrice espagnole Montserrat Caballé, disparue samedi à l'âge de 85 ans. Soprane à la puissance vocale légendaire, l'espagnole avait notamment triomphé sur la scène de la Scala de Milan et brisé les traditions et les frontières de genre en enregistrant l'album Barcelona avec Freddie Mercury en 1988. Respect.
L'écrivain Julian Barnes, invité de Boomerang ce matin pour La Seule Histoire, ce nouveau roman qui s'ouvre par une citation de l'homme de lettres du XVIIIe siècle, Samuel Johnson, roman, une petite histoire, généralement d'amour. Alors je vous pose la question, est-ce que ça existe, des petites histoires d'amour, Julian Barnes ?
Il y a peut-être des petits romans, mais de grand amour.
C'est quoi. Ça.
C'est ça qu'on veut écrire.
Qu'est-ce qui rend une histoire d'amour grande, ou plutôt comment les rendre grandes, parce que c'est ce que vous faites dans ce roman, La Seule Histoire.
Ce que je propose, c'est que c'est la souffrance. Plus on aime, plus on est dans un état de danger. On se donne à la destinée, sans savoir ce qui va se passer. Et dans mon roman, La Seule Histoire, on voit la destruction d'un amour qui n'est pas la faute ni de la femme, ni de l'homme.
En même temps, dans ce livre, vous ne cessez d'interroger ce qu'est un roman. Pourquoi écrire des romans quand on peut aussi bien écrire des essais ou des articles pour les journaux ?
Ah, mais je les écris également.
Et qu'est-ce que ça change ?
Ah, ça change. C'est complètement différent. Je prends les deux d'une façon également sérieuse. Mais quand on écrit un article ou un essai, on essaie d'écrire quelque chose qui peut être pleinement compris et entendu à la première lecture.
Oui.
Et qu'on a très peu de raisons de relire. Tandis que quand on écrit un roman, on veut écrire un texte et à la fin de la lecture duquel le lecteur ou la lectrice se demandera « Mais est-ce que j'ai tout senti que je devrais sentir ?» Et on veut que ça reste, ça loge dans la mémoire du lecteur. Ce qui me plaît le plus, c'est que de temps en temps, quelqu'un m'écrit et dit que j'ai lu votre roman. Et il m'a fallu attendre une semaine avant de lire un autre livre. parce que ça s'est logé tellement dans ma tête.
Pour autant, au sujet de la différence entre le journalisme et l'acte romanesque, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites que le roman, c'est le lieu privilégié de l'expression de la vérité.
Oui, je crois que c'est le cas. Évidemment, il y a beaucoup de sortes de vérités. Et le journalisme, c'est la vérité d'aujourd'hui. Le roman, c'est la vérité qui se lie avec la vérité du roman du 19e, 20e, 18e siècle et du roman à venir. C'est quelque chose de continuel.
Et c'est une vérité plus grande ?
Plus profonde, je crois, oui. On reconnaît, quand on lit les grands écrivains, les grands romanciers du 19e siècle, que les hommes et les femmes n'ont pas changé essentiellement. Leur vie a changé, l'économie a changé, et tout ça. Mais le cœur et le cerveau n'ont pas changé.
Quand est-ce que vous avez su que vous voudriez être écrivain ?
Oh, très lentement, très lentement. Je croyais que j'aimais les livres, bien sûr. Il y avait toujours des livres chez nous. Mais je croyais que c'était écrire, c'était quelque chose que les autres faisaient.
Mais pourtant, vous le disiez, vous venez d'une famille de lettrés. Vos parents enseignaient le français ?
Oui, mais la seule chose que ma famille entière, pendant des siècles, avait écrit, était une lettre à un journal que ma mère a écrit. Et on l'a découpé, elle était sur la cheminée. Et elle est restée là.
Mais qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre ?
C'est une lettre assez conservatrice contre les étudiantes qui sont devenues enceintes.
Ah bah, bravo.
Bravo, bravo, oui, oui, oui.
Mais quelle place avaient les livres chez vous quand vous étiez petit ? À quoi ressemblait la bibliothèque de vos parents ?
Il y avait pas mal de livres français, bien sûr, des livres de littérature anglaise, de l'histoire, de la biographie, des livres de poche, bien sûr.
Qu'est-ce que ces livres, à votre avis, disaient de qui ils étaient, vos parents ?
Ils disaient que ils étaient des francophiles passionnés, passionnants, qui s'intéressaient au monde, à ce qui se passait, avaient un esprit assez ouvert.
Sauf en ce qui concerne les jeunes étudiantes enceintes.
À part ça.
Il y a cette phrase dans La seule histoire que je trouve assez savoureuse. Votre personnage dit « Je venais du genre de foyer où les livres, pour confirmer qu'ils devaient être respectés, étaient bien rangés. » Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire « respecter les livres » pour vous ?
Alors quand j'avais 18 ans, à peu près, je pense que beaucoup des livres que j'ai achetés, je les ai achetés parce que je croyais que je devais les lire plutôt que je voulais les lire. Et je les rangeais très exactement. Il y avait une série de livres de poche qui s'appelle les Penguins. Il y avait ceux qui étaient d'une couleur orange, qui étaient des romans, et ceux d'une couleur bleue, avec une couverture bleue, qui étaient des livres de philosophie, d'histoire, de théorie et tout ça, des livres sérieux. Et ce qu'il fallait, c'était d'avoir plus de bleu que d'orange.
Vous avez fini par les lire ?
Alors, quelques-uns, oui. Oui, mais maintenant, je n'achète que des livres que je veux lire.
Je vous pose la question du livre Julian Barnes, parce que je me souviens de votre effarement, il y a 5 ans, face à la décision du gouvernement conservateur britannique de fermer des bibliothèques publiques. Quelle place est-ce que le livre occupe en Grande-Bretagne aujourd'hui ?
Oui, ça m'a choqué terriblement. Pour moi, je pense tout simplement qu'il ne serait pas nécessaire de payer pour découvrir le monde et pour se découvrir. Et je suis très fier du fait que dans la Grande-Bretagne, la plupart des musées sont gratuits. On ne paie pas pour voir les grands chefs-d'œuvre dans le National Gallery ou dans le British Museum. Mais en même temps, on tue les bibliothèques publiques. On dit, il y a l'Internet, ils peuvent lire comme ça. Mais c'est différent, c'est différent. Lire un bouquin, un vrai bouquin, c'est quelque chose de primaire, d'essentiel dans la découverte de l'univers.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous écrivez des livres, Julian Barnes ?
Oh, modestement, oui.
On va continuer à parler de livres, à se raconter des histoires, tous les deux, des histoires d'amour, pourquoi pas. Après l'une des plus belles chansons d'amour, tiens, The First Time I Ever Saw Your Face, dans une version de Johnny Cash, vous êtes sur France Inter avec Julian Barnes, vous écoutez Boomerang.
The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. And the moon and the stars were the gifts you gave. To the dark and the endless sky, my love. And the first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move through my hands. Like the trembling heart of a captive bird, that was there at my command. And the first time ever I lay with you, I felt your heart so close to mine. The first time ever I saw your face.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est le chic, la distinction, la respectabilité incarnée. Il est grand, mince, avec son nez aquilin, son regard bleu clair, ses cheveux gris, bien peignés, avec la raie sur le côté. On s'attend d'un instant à l'autre qu'il dégaine son chapeau melon et sa tasse de thé, avec son petit gilet bleu marine sur sa chemise grise et sa montre, les poignets ouverts. Julian Barnes, invité de Boomerang ce matin pour ce magnifique nouveau roman, La seule histoire, un livre qui part du principe qu'un premier amour détermine votre vie, sans doute pour toujours. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Julian?
Parce que je crois que c'est la vérité. Je crois que le premier amour s'est fait une de deux choses. Ou ça vous donne un template,
un cadre,
une façon d'aimer que vous allez suivre toute votre vie. Ou ça vous donne un contre-exemple, ça vous apprend comment ne pas aimer. Et on n'a pas le choix, on ne la choisit pas soi-même.
Mais voilà, obligé de vous poser la question, Julian, dans votre vie, quel rôle déterminant a joué votre premier amour? Et vous n'avez pas le droit d'utiliser votre joker anglais de ravalement de paroles. Vous devez me répondre.
Oh, je crois que c'était très très important pour moi. Mais je ne vais pas vous donner des détails, parce qu'il faut attendre ma biographie qui sortira après ma mort. Mais vraiment, ça a été une influence fulgurante sur moi.
Un trait de caractère, par exemple, que vous avez aujourd'hui, que vous devez à cette première histoire d'amour?
Alors c'est une histoire d'amour assez tempestueuse, assez du point de vue d'émotion, assez violent. Et je pense que je suis plus philosophe. Mais philosophe amateur, pas philosophe professionnel. Mon frère est philosophe professionnel. Il habite la France.
Il le doit d'une histoire d'amour aussi ?
Ah, sûrement.
Ce qui est passionnant, c'est la manière dont vous racontez cette histoire, où vous ne cessez d'interroger l'acte de raconter une histoire, justement. D'où vient-il notre besoin de nous raconter à nous-mêmes, de raconter des histoires, de raconter tout simplement, Julian Barnes?
C'est la base de notre humanité, qu'on raconte des histoires, qu'on les raconte l'un à l'autre, qu'on se raconte l'histoire de sa vie. C'est ce qu'on fait. Et ce qu'on ne comprend pas entièrement, c'est que en se racontant sa propre vie, on la change chaque fois. Et la vie devient une fiction. Oui.
Parfois, on n'a pas les mots pour raconter une histoire. C'est d'ailleurs ce que vous faites dire à votre narrateur qui explique que pour décrire son histoire d'amour, aucun mot ne semble convenir.
Oui. C'est souvent le cas, je crois. Que il n'y a que des banalités d'expression et le premier temps qu'on tombe amoureux, on pense que les mots et la réalité de notre match ne s'accordent pas.
Mais alors comment on fait quand aucun mot ne convient?
Alors, il faut être écrivain, il faut réinventer la langue.
Ah ben nous voilà bien. C'est pas donné à tout le monde, Julian
Oui,
Barnes.
Pourquoi pas.
Il vous arrive, vous, de ne pas trouver les mots?
Oui, souvent, oui, surtout en français.
J'aimerais lire un extrait de votre livre, si vous le voulez bien.
Oui.
Une citation dans son carnet qui avait survécu à plusieurs relectures. En amour, tout est vrai, tout est faux, et c'est la seule chose sur laquelle on ne puisse pas dire d'absurdité.
Oui.
Il avait aimé cette remarque depuis qu'il l'avait découverte, parce que pour lui, elle s'ouvrait sur une pensée plus large, celle que l'amour lui-même n'est jamais absurde, ni aucun des participants. Toutes les sévères orthodoxies de sentiments et de comportements qu'une société peut chercher à imposer, l'amour les esquive. On voit parfois, dans la cour de ferme, d'improbables formes d'attachement, loi et prise de l'âne, le chaton jouant sans crainte entre les pattes d'un molosse enchaîné. Et dans la cour de la ferme humaine, il existe des formes d'amour tout aussi improbables, et pourtant, jamais aux yeux des participants, absurdes.
Oui, c'est le cas. Et la citation, la première citation, c'était de Champfort, votre grand philosophe du XVIIIe siècle.
Qu'est-ce que vous trouvez absurde, vous, Julian Barnes?
Ah. Alors, la vie elle-même était absurde, bien sûr, comme a reconnu Camus et les autres.
Et Shakespeare.
Et Shakespeare, oui. Il faut qu'on le prenne au sérieux, pour la plupart du temps. Mais le fait que nous sommes ici, on n'a pas demandé d'être ici. Et puis on va disparaître complètement. Et tout ce qu'on a senti, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a écrit va disparaître également. Et puis le planète va disparaître.
C'est une angoisse.
C'est absurde. Et en même temps, il nous semble qu'on est ici, dans ma bibliothèque, avec beaucoup de livres, et la vie a toute l'apparence d'être quelque chose de calme, quelque chose qui va continuer, quelque chose qui ne sera pas écrasé. Ça, c'est absurde.
Ça vous angoisse?
Bien sûr.
On ne peut rien dévoiler, évidemment, de la fin de votre roman, mais on peut se dire, effectivement, qu'il répond parfaitement à ce que vous venez juste de dire. Et je vous parle de fin sans rien dévoiler parce que vous avez écrit sur les fins. Je pense à Une fille qui danse, dont le titre anglais était The Sense of an Ending, le sens de la fin. Qu'est-ce que c'est une bonne fin pour vous?
Une bonne fin, une bonne mort. C'est de trouver une réconciliation avec l'absurde brèveté de notre vie et mourir sans peur et sans reproche. Quoi.
On en revient à la phrase de Champfort. Ouais. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, cette phrase, tiens, si pleine de bon sens, a-t-elle été écrite par un Français?
Oh, mais vous êtes plein de bon sens. mais c'est seulement un bon sens qui s'exprime d'une façon différente de notre bon sens à nous.
Mais alors, quel pays de littérature est-ce que c'est pour vous, la France, Julian Barnes?
Alors, c'est le pays de Voltaire, c'est le pays de Flaubert, surtout de Camus, plutôt que Sartre, C'est le pays de Colette également. C'est le pays. C'est un pays avec beaucoup de couleurs différentes. Et ça a toujours été pour moi. Non, pas toujours, mais souvent, ça a été pour moi la littérature qui me dit le plus, où je me sens au plus chez moi. Par exemple, je pense que Voltaire est un écrivain meilleur que Dr. Johnson. On fait des comparaisons. Flaubert, je le préfère à Dickens, etc.
Flaubert, vous avez écrit?
Oui, j'ai écrit sur Flaubert, le perroquet de Flaubert. Oui, c'était le premier de mes livres qui a vraiment survolé les frontières.
Qu'est-ce qu'il vous a appris sur l'écriture, Gustave Flaubert?
Alors, c'est le saint et le martyr de la littérature. Il s'est dévoué entièrement à l'écriture. Ça ne veut pas dire qu'il a oublié de vivre. Il a bien vécu. Mais une des choses qu'il voulait faire, à cette époque, le plus grand art littéraire, c'était la poésie. Et il a dit qu'une phrase d'un roman doit être aussi permanente et aussi forte qu'une phrase de poésie. Donc il a voulu élever la prose jusqu'au niveau de la poésie. Et il faut que le lecteur et l'écrivain le prennent aussi sérieusement que la poésie.
C'est quelque chose qui vous anime, vous aussi, aujourd'hui?
Bien sûr, bien sûr. Il a dit également, je ne sais pas si j'ai la citation exacte en français, mais il a dit que la prose est comme les cheveux. Ça brille en peignant. Donc il faut peigner tout le temps la prose comme les cheveux.
Je comprends mieux pourquoi vous êtes admirablement peigné aujourd'hui, Julian Barnes.
C'est pour la radio française.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que La Seule Histoire, votre si beau roman, est publié au Mercure de France dans une traduction de Jean-Pierre Austin, et je le conseille à tous les auditeurs parce que c'est bouleversant. Je tiens à vous remercier aussi de nous avoir accordé cet entretien en français, parce que je crois que ça n'est pas toujours le cas.
Non, je trouve un peu difficile, oui.
Ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas donné une interview en français?
En français, oh, 5 ans au moins. Mes excuses pour mes erreurs.
C'était délicieux. Tout de suite, Les Médias, Sonia De Villers, juste après ça. Barba Gallo. C'est l'heure de Sonia De Villers, Les Médias, l'instant M.